Le texte que j'aimerais prendre pour servir de base à cette prédication se trouve dans les Actes des Apôtres, Actes au chapitre 2. Alors, il y a le texte qui est affiché dans la version où je vais le lire. C'est pas très gros, vous pouvez préférer le lire sur vos Bibles. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 42. On parle là de chrétiens, environ 3000 personnes qui sont l'église de Jérusalem. Et il est écrit. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ce qu'il sauvait. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Mais quand je lis ça, moi j'ai envie de rajouter « Waouh ». C'est un de mes textes préférés du Nouveau Testament, un de mes textes préférés de la Bible. Et je sais que c'est un texte que beaucoup de monde apprécie particulièrement. C'est un texte qu'on apprécie parce qu'on voit une vie d'église enthousiaste. L'église, la première église qui s'organise de façon riche et qui fait envie. En tout cas, moi, cette église-là, elle me fait envie. Avant d'aller plus loin dans l'étude de ce texte, j'aimerais avoir un petit avertissement, mais un avertissement méthodologique. Dans la Bible, on a toutes sortes de textes. Et un commandement, ce n'est pas la même chose qu'un témoignage. Et ce texte-là, c'est un témoignage. Un témoignage de ce qui s'est passé à cette époque. Un récit de ce qui s'est passé. Et voilà, méthodologiquement, il faut avoir conscience de ça, qu'il y a différents textes avec différents buts. Le but de ce texte, c'est de nous rapporter ce qui s'est passé, et ce n'est pas forcément de nous dire « c'est comme ça qu'il faut faire ». Quand la Bible veut dire « c'est ça qu'il faut faire », elle le dit avec un impératif, comme Ivan nous l'a rappelé. Là, c'est un témoignage. Néanmoins, les témoignages et les récits sont utiles pour tirer des enseignements du passé. Et là, on peut étudier qu'est-ce qui se passe dans cette église avec une vie si dynamique pour essayer d'en tirer des principes pour nous. Alors, un petit rappel tout d'abord sur là où on en est dans l'histoire de la Bible, dans la grande histoire que raconte la Bible. Le livre des Actes des Apôtres, c'est une fois que Jésus est monté au ciel après sa mort et sa résurrection, la première église, celle des apôtres, des disciples, comment ils la mettent en place et comment elle commence, cette église dont nous sommes issus aujourd'hui, sa genèse. Et là, le chapitre 2, on est au début de cette grande histoire de l'église, et ce chapitre, c'est vraiment un chapitre où tout se débloque. Je ne sais pas si vous êtes fan de séries télé, où il y a des récits qui se développent comme ça sur plusieurs épisodes. Et il y a plusieurs séries qui sont comme ça, où ça avance lentement, il n'y a pas beaucoup d'action. Et puis tout d'un coup, il y a un épisode où tout explose, où tout s'enchaîne, où tout se débloque. Et bien Acte 2, c'est un peu un épisode comme ça. Tout se débloque. Les disciples qui étaient là et qui ne savaient pas quoi faire, et tout d'un coup, le Saint-Esprit tombe sur eux. Ils se mettent à faire des choses extraordinaires, la foule accourt, et ces 120 disciples qui étaient là au début du chapitre, ils sont plus de 3000 à la fin du chapitre. Et à la toute fin du chapitre, c'est le texte que nous avons lu, ce petit groupe de 120 qui est passé à plus de 3000, ils sont dans une dynamique super enthousiasmante et de croissance continue. Donc, acte 2, c'est vraiment un épisode clé dans la série que nous raconte la Bible. Qu'est-ce qu'on observe dans le passage qu'on a lu ? Qu'est-ce qu'on observe ? D'abord, on observe une vie d'église bien remplie. On nous raconte tout ce que font ces chrétiens ensemble. Ils suivent l'enseignement des apôtres, l'enseignement des disciples, de ceux qui étaient avec Jésus, pour en savoir plus sur Jésus et sur son message. Ils vivent la communion fraternelle, c'est-à-dire qu'ils vivent comme des frères et sœurs, avec des liens d'amour étroits. Ils sont ensemble, ils ont tout en commun, ils vendent même leurs biens pour partager à chacun selon les besoins. Ils prennent leur repas ensemble, la nourriture, tout ça, c'est pour vivre l'amour concrètement les uns avec les autres. Ils partagent le pain aussi, partager le pain, c'est ce que nous venons de faire, le repas du Seigneur, la scène pour nous souvenir que ce qui nous rassemble, c'est la mort de Jésus. Et ils louent Dieu à travers les prières, à travers les chants de louange. Voilà. Une vie bien remplie. Voilà tout ce que fait cette église. Waouh, ça fait vraiment un gros programme. Mais le plus impressionnant, je trouve, ce n'est pas leur programme, ce n'est pas ce qu'ils vivent, ce n'est pas le quoi, c'est le comment. Et j'ai appelé ça une vie d'église bien vécue. Parce que tout ça, ils le font de manière assidue, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas une fois de temps en temps, mais ils viennent régulièrement et fidèlement. Ils sont dans la crainte, c'est-à-dire que c'est pas la crainte, ce n'est pas une peur, mais c'est la conscience que ce qu'ils font, c'est du sérieux, qu'ils sont vraiment reliés à Dieu, que ça vient de lui et qu'ils ne sont pas en train de vivre une expérience humaine. Ils font ça chaque jour. Ils le font d'un commun accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un leader qui impose sa volonté, mais c'est un consensus qui les conduit. Et ils font ça avec allégresse et simplicité de cœur, avec une très grande joie et un cœur simple, sans se prendre la tête, ça se fait tout seul. Donc en résumé, on a ici la description d'une vie d'église réussie, une vie d'église riche. On a le témoignage de ce qui se passe quand le Saint-Esprit est à l'œuvre. Une vie d'église où il se passe plein de choses, où on fait plein de choses, mais surtout où on le fait avec la manière, parce qu'on en a envie. Et une église qui grandit toute seule, pas parce qu'on recrute, on vient chercher, mais parce que, juste parce qu'elle fait envie. Et c'est ce qui se passe. Et je crois qu'avec ce passage, ce chapitre d'acte 2, et ce passage en particulier, on a quelque chose qu'on peut viser, nous, dans ce qu'on peut vivre. Alors, je disais que les récits, on peut en tirer des principes. Quels principes on peut tirer de ce récit que nous avons lu ? Vous savez peut-être qu'en études bibliques, on étudie le livre des Actes des Apôtres depuis maintenant plus d'une année avec Fabrice. Et quand on a étudié ce passage, on a insisté sur un verset, et moi ça m'est resté. C'est le verset 46. Chaque jour, ils étaient assidus au temple, d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Et en fait, plus qu'un verset, on a insisté sur trois mots. Chaque jour, au temple et dans les maisons. Chaque jour, au temple et dans les maisons. Toute cette richesse, elle ne peut pas être vécue dans un seul créneau de 2 heures le dimanche matin. En tout cas, pas dans une église en croissance comme l'était celle de Jérusalem, une église où chaque dimanche ou chaque jour, il y a des personnes nouvelles, comme l'était l'église de Jérusalem, et quand commence à l'être notre église. Si dans des églises de petite taille, des églises qui rassemblent 20, 30 personnes, dans ces églises-là, c'est possible de vivre toute cette richesse pendant le culte. Parce qu'on connaît tout le monde et qu'on peut prendre le temps à la fin du culte de prendre des nouvelles, de se sentir à l'aise pour se confier, de se soutenir les uns les autres, de prier les uns pour les autres pendant la semaine. C'est une super vie d'église. Certains l'ont connue dans cette église quand elle était à ses débuts, ou dans d'autres passages, dans d'autres villes. Mais quand on grandit, ça devient impossible d'avoir cette intimité et ce niveau de partage avec tout le monde. Or, nous avons décidé de grandir. Nous avons décidé de grandir parce que grandir, ça permet de faire des choses comme organiser des parcours alpha, mettre en place une troupe de flambeaux, avoir un enseignement systématique pour les enfants, avoir un beau groupe de musique, et je ne dis pas ça parce que c'était moi qui étais là ce matin, c'est d'habitude que c'est beau ce matin, on a fait ce qu'on a pu, justement. Ça permet aussi d'organiser de grands événements, comme ce qu'on organise quand il y a le Vise Living Hope qui envoie des musiciens et qu'on fait la tournée dans les villes alentours. Nous avons décidé de grandir pour vivre tout ça, et plus encore. Mais ce n'est pas parce qu'on a décidé de grandir qu'on veut faire l'impasse sur certains pans de la vie chrétienne. Rick Warren, le pasteur de l'église de Saddleback en Californie, milite en disant « Plus l'église est grande, plus elle doit être petite. Plus l'église est grande, plus elle doit être petite. Plus la communauté rassemble de personnes, plus le fait de se retrouver en petits groupes devient important, devient vital. Parce que nous avons décidé de grandir, nous voulons entretenir des lieux de petite taille pour avoir une vie chrétienne complète. Et ces lieux, ce sont nos groupes de maisons. En fait, ce que nous voulons faire, c'est vivre la vie d'église sur 2 jambes, sur nos 2 pieds, les cultes et les groupes de maisons. Et si vous voulez une vie d'église complète, vous devez vous appuyer sur vos 2 pieds. Des groupes de maisons, donc. Mais de quoi parlons-nous? Ça vaut le coup de définir ce qu'est un groupe de maisons pour être sûr de tous parler de la même chose. Un groupe de maisons, déjà, c'est un petit groupe de personnes. Et on peut dire entre 6 et 12, il y a des groupes un peu plus petits, il y a des groupes un peu plus grands, mais il faut le garder relativement petit, pas trop petit pour que on ait des choses à se dire et que ce soit riche, pas trop grand pour que tout le monde ait la parole et puisse se sentir à l'aise. C'est un groupe lié à l'Église. Ce n'est pas un groupe indépendant qui vit sa vie toute seule, mais c'est un groupe qui fait le lien avec ce que l'Église vit. Et ce lien passe entre autres à travers le responsable de ce groupe. Et c'est un groupe qui a pour but d'allier responsabilité et d'allier spiritualité et fraternité. Spiritualité et fraternité. Nous voulons, dans ces groupes, nous tourner vers Dieu, vers ce qu'il a à nous dire dans la Bible, nous tourner vers lui à travers la prière, et nous voulons le faire fraternellement, en travaillant le lien les uns avec les autres. Voilà une définition que je pourrais donner d'un groupe de maison, un petit groupe lié à l'Église, alliant spiritualité et fraternité. Ce groupe-là, ce n'est pas une révolution. On l'a vu dans la Bible, dans les Actes, ils se réunissaient déjà dans les maisons. Au cours de l'histoire, il y a eu des expériences également. Luther a voulu mettre ça en place, même s'il n'y est pas arrivé. Et puis, les petits groupes, c'est des choses qu'on trouve aussi ailleurs que dans l'Église. Il y a des groupes de parole, des groupes de discussion, toutes sortes de groupes comme ça. Une chose qui est importante dans les groupes de maison, c'est que nous voulons mettre Dieu au centre de ces groupes, à travers la Bible, à travers la prière. Que faire dans ces groupes? Maintenant qu'on est d'accord sur ce que c'est, à quoi servent ces groupes? Première chose, un groupe de maison sert à bâtir un relationnel fort. Il y a un mot qui est revenu souvent dans la louange ce matin, c'était « ensemble ». Dans les chants qu'on a chantés, dans les commentaires qu'a fait Ivan, « ensemble » venait régulièrement. Et en écoutant ça, je me suis dit « ensemble », c'est un peu l'équivalent en français de ce qu'on trouve dans la Bible et qui est souvent traduit dans nos Bibles par « les uns les autres ». Si vous lisez, si vous faites attention dans le Nouveau Testament, « les uns les autres », il y en a partout. Il y a partout des commandements de faire les choses les uns les autres. Je peux donner quelques exemples. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Veillons les uns sur les autres. Il y en a plein. Il y en a plein et on peut les résumer par ce commandement de Jésus, et alors là qu'on trouve dans tout le Nouveau Testament, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, mais pas d'un amour théorique, un amour pratique. Un amour où on est ensemble, un amour où on s'aide, où on s'entraide. Comme ce qu'on a lu dans Acte 2. Vivre ça, vivre ces relations, il me semble que c'est extrêmement difficile de le faire en se basant uniquement sur le temps que nous avons le dimanche matin après le culte. C'est vraiment des beaux temps pour être ensemble, pour se saluer, pour faire connaissance. Mais nous avons peu de temps. Et la personne que nous avons vue une semaine, peut-être pas la semaine d'après, on est pressé, on a le temps de se dire bonjour, d'apprendre à se connaître, mais pas d'apprendre à se connaître en profondeur ou de nouer une amitié. Du coup, le petit groupe, c'est une opportunité pour vivre ça, pour approfondir une amitié. Et créer en nous, entre nous, et entretenir entre nous un relationnel fort. Deuxième chose à faire dans un groupe de maison, c'est prier les uns pour les autres. La prière est très importante dans la vie chrétienne. Dans Éphésiens, il est écrit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Faites toutes sortes de prières. Le culte est un lieu de prière. Mais pas forcément le lieu où nous pouvons avoir toutes sortes de prières. Nous y avons des prières de louange où ensemble nous louons Dieu pour ce qu'il est. Nous pouvons avoir un temps de prière structuré aussi, où on prie pour toute la communauté. On va l'avoir tout à l'heure, semaine après semaine. On prie comme ça pour trois familles, pour que tout le monde passe de façon systématique. On a aussi des réunions de prière avant le culte, c'est lundi soir, où nous pouvons prier ensemble pour notre projet d'église. Mais le culte n'est pas le lieu où nous pouvons prier pour nos besoins concrets. Prier pour la maladie d'un tel, pour les examens qui attendent tel autre, pour un souci relationnel que je peux avoir au travail ou dans ma famille, etc., etc. Et pourtant, la Bible nous encourage à prier pour tous ces sujets concrets. Elle nous demande de prier les uns pour les autres, de nous soutenir ainsi devant le Seigneur. Le petit groupe rend ça possible. C'est un lieu où je peux m'ouvrir avec d'autres, un lieu où la confidentialité est obligatoire pour pouvoir ainsi s'ouvrir et porter nos fardeaux, comme le Nouveau Testament nous y invite. Troisième objectif du groupe de maison, mieux connaître la Bible. Nous croyons que nous sommes tous prêtres. C'est un peu théorique dit comme ça, mais ça a des implications. Dans 1 Pierre, il est écrit que vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de Jésus-Christ. Tout le monde, tous les chrétiens sont appelés à cette vie-là. Être chrétien, ce n'est pas passer par l'intermédiaire d'un prêtre pour accéder à Dieu. Nous avons l'accès direct. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour lire la parole, nous pouvons le faire nous-mêmes. Écoutez ce qu'il a à nous dire. Mais ce n'est pas toujours facile de lire la Bible. Ce n'est pas toujours facile de comprendre comment ce livre qui a été écrit il y a plusieurs siècles est pertinent pour moi aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile de comprendre ce qui est en jeu, où ça se place dans l'histoire, quels sont les rapports de force politiques qui existent à l'époque, quelle est la culture, comment le passage que je lis s'articule avec le reste de la révélation biblique. Tout ça, ça se travaille petit à petit. Le petit groupe est un lieu privilégié pour ça, parce que c'est un lieu où je vais pouvoir poser mes questions, où d'autres qui sont passés par les mêmes questions avant moi vont pouvoir me répondre. C'est un groupe où je vais aussi pouvoir formuler comment je comprends le texte et puis le partager avec les autres personnes qui sont là. C'est vraiment un lieu où on peut grandir dans sa connaissance, dans son habileté à manipuler la Bible, à manipuler, pas dans le sens la tordre, mais à s'en servir, la comprendre, la lire. Et c'est une occasion de vivre ce commandement. Instruisez-vous les uns les autres par la parole. Quatrième objectif d'un groupe de maison, c'est de passer de la connaissance à la pratique. Connaître la Bible, c'est bien, mais ça ne suffit pas. L'apôtre Jacques écrit ce commandement ravageur. Ne vous contentez pas d'écouter la parole, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être observé ainsi, il s'en va et oublie qui il est. Lire la Bible, nous ne faisons pas pour accumuler des connaissances. C'est un peu vain, et je pense qu'il y a pas mal de choses dont on peut tirer d'autres plaisirs. Si nous la lisons avec persévérance, c'est pour changer nos vies. Mais changer sa vie, c'est pas facile. C'est un combat. C'est prendre conscience de ce que je fais et de ce que je fais n'est pas toujours heureux. Et pour ça, on a besoin de soutien, mais de soutien de personnes de confiance. Ça va être difficile de m'ouvrir avec n'importe qui de quelque chose qui m'est vraiment difficile. Pour nous ouvrir des combats intérieurs que nous menons, pour trouver du soutien dans ces combats, des conseils, pour aussi être stimulé par les victoires que les autres remportent dans leur propre vie. Encore une fois, un petit groupe, c'est un très bon lieu. un très bon lieu pour vivre ça, vivre ces échanges. Un lieu pour confesser les uns aux autres nos péchés, nos combats, et pour nous encourager dans cette direction. Et puis, cinquième objectif que nous pouvons avoir pour nos groupes de maison, c'est celui de grandir dans le service. Si vous êtes familier de cette église, vous savez que nous voulons être des disciples qui font des disciples, qui feront eux-mêmes des disciples, et ainsi de suite. Et des disciples, ce sont des personnes actives pour répandre le message de notre Maître, Jésus-Christ. Pour le répandre de toutes les façons possibles, en invitant, en accueillant, en baptisant, en enseignant, en envoyant. Mais pour faire tout ça, il faut se former, il faut s'entraîner. Et les groupes de maison, bah encore une fois, c'est un bon lieu pour faire ça à petite échelle, pour nous mettre au service les uns des autres, comme c'est demandé dans Galates. Pour détecter les dons de chacun, les envies, les passions, et pour tester les dons dans un environnement bienveillant. Les groupes de maison sont un bon lieu pour s'affiner au service avant de viser plus grand. Voilà, cinq objectifs pour nos groupes de maison. Bâtir un relationnel fort, prier les uns pour les autres, mieux connaître la Bible, passer de la connaissance à la pratique et grandir dans le service. Que dire en conclusion de notre réflexion sur ce passage ? L'Église peut être géniale. La vie d'Église peut être géniale, c'est ce que nous rappelle ce passage d'Acte 2. Et c'est ce type d'Église que nous voulons être, c'est ce type d'Église que nous voulons vivre. Et en tout cas, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre dans mon Église. Mais pour vivre une telle vie, en plus du culte, nous devons développer une vie fraternelle. Nous devons développer cette dimension les uns pour les autres. Et ça, nous voulons le développer à travers les groupes de maison. À mon avis, la vie d'Église n'est pas complète si vous vous arrêtez au culte. Et donc, je vous invite à vivre la vie d'Église sur vos deux pieds, sur vos deux jambes. Et je vous invite à rejoindre un groupe de maison si vous n'en faites pas encore partie. Et je vous invite à persévérer si vous faites partie d'un groupe de maison. Il ne s'agit pas d'une obligation, mais essayez. Essayez les groupes de maison. Voilà ce que nous voulons être. Une église de disciples heureux de vivre toute la richesse que le Seigneur a voulu. Une église solidement debout sur ses deux pieds. Amen.